C'est le Social Lab. Salutations Valère Correa.
Salut Eric et salut Karine.
Salut Valère.
À propos ce matin d'un mouvement très récent en France, ce sont des scientifiques et ils ont fait le choix de la désobéissance civile pour interpeller sur l'urgence climatique.
Voilà, alors ils ont rejoint un mouvement international qui est né à Glasgow lors de la COP26, son nom Scientist Rebellion. Et ce mouvement s'est récemment installé en France avec des groupes locaux dans plusieurs régions. On peut lire sur le site du collectif qu'en tant que scientifiques, ils ont déjà essayé d'écrire des rapports, de faire des présentations sur l'urgence écologique et climatique, mais qu'il faut reconnaître que cela ne suffit pas et qu'il est temps pour eux de passer à l'action.
Mais la désobéissance civile, c'est pas vraiment dans la culture scientifique.
C'est vrai, c'est pas neutre, hein. C'est même un choix plutôt radical. Alors bien sûr, on parle de désobéissance civile non violente, hein, avec des actions symboliques, mais parfois tout à fait hors la loi. Une récente, dont on a un peu entendu parler le 9 avril dernier, une vingtaine de scientifiques ont bloqué la fermeture du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris avec ce message « La vérité n'est pas un crime ». Mais de toute façon, pour ces scientifiques, ce risque de la désobéissance est bien plus faible comparé au risque climatique. J'ai pu échanger avec deux membres du mouvement à Nice, Eve Saint-Germès, qui est maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'Université Côte d'Azur, et Aurélien Crida, il est chercheur en astrophysique à l'Observatoire de la Côte d'Azur, sciences de l'univers. Pour ces deux scientifiques, il faut plus de radicalité car il y a urgence. Eve Saint-Germès.
Il est indispensable, à mon avis, vraiment de sortir, on va dire, des zones de confort et de prendre ce rôle de lanceur d'alerte. Et comme finalement, pour être entendu, il semblerait qu'il faille sortir des labos et du discours scientifique classique, eh bien, je pense que c'est la voie à prendre, oui.
Et même son de cloche, hein, pour Aurélien Crida, ce n'est pas de désobéir qui est risqué, c'est surtout de ne rien faire.
Il faut bien comprendre que c'est ne rien faire qui est prendre un risque. Si on ne fait rien, on prend le risque que dans 10 ans, on ait des événements climatiques graves comme la tempête Alex qui a durement touché nos vallées dans les Alpes-Maritimes, qui se répètent de plus en plus fréquemment. Et on prend le risque que dans 30 ans, on ait des sécheresses telles qu'on ait des problèmes tout simplement pour avoir une agriculture qui permette à l'humanité de survivre. Donc ne rien faire, c'est prendre un risque.
Alors là, on vient d'entendre successivement, Valère, d'abord une chercheuse en sciences de gestion et puis un astrophysicien. Ce sont deux domaines scientifiques assez différents. Est-ce qu'ils sont représentatifs de ce mouvement de contestation, de désobéissance civile?
Oui, apparemment, c'est une approche qui se veut très large, hein, qu'il s'agisse des domaines scientifiques, mais aussi des profils. Ce n'est pas une équipe de militants, d'activistes déjà très engagés au départ. Et pour Eve Saint-Germès ou Aurélien Crida, par exemple, s'ils ont bien déjà marché pour le climat, l'écologie n'est pas au cœur de leur action, hein, à la base.
Alors j'imagine que les travaux du GIEC sont une base scientifique importante pour les membres de ce mouvement.
Fondamental. Hein. Ils y reviennent souvent en citant les centaines de scientifiques qui font ce travail, je cite, colossal, en se basant sur des dizaines de milliers d'études. Mais puisque cela ne semble pas suffire, bien eux, ils veulent aller encore plus loin.
Alors la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce que ce mouvement Scientist Rebellion est politisé?
Alors politisé, je crois pas, en tout cas pas totalement. Par contre, il est éminemment politique, hein, même si on peut lire entre les lignes quelques messages qui sont des marqueurs dans certains propos. Par exemple, un peu avant de conclure mon échange avec nos deux chercheurs niçois, Aurélien Crady a tenu à me faire une petite démonstration rapide sur notre modèle économique basé sur la croissance infinie.
Si on me donne une seconde sur France Inter, une seconde par jour, mais avec plus 2% chaque jour, 35 jours plus tard, ça double. À plus 2%, on double en 35 fois. Donc, j'aurai 2 secondes sur l'antenne dans un mois, 4 secondes dans 2 mois, 8 secondes dans 3 mois, etc. En un an, je me retrouve avec une chronique de 20 minutes, 23 minutes. Pas encore de quoi bouleverser la grille des programmes, bien sûr. Sauf que dans un an et 7 mois, j'aurai droit à 24 heures d'antenne. Avec seulement, en partant de 1 seconde à 2%, plus 2% par jour. En un an et 7 mois, j'ai 24 heures d'antenne. À partir de là, comment on fait pour respecter le contrat de plus 2% par jour? C'est pas possible, on a atteint les limites.
C'est QFD, comme on dit. Hein. En tout cas, si le sujet vous intéresse, nos deux chercheurs sont en interview et ça vient d'être publié, c'est sur l'infodurable.fr.
Et cette chronique, Valère Coréard, le Social Lab, c'est sur franceinter.fr.